On parlera demain de notre dans l'éthique du travail. Mais il y a un frère qui pose une question sur la réaction. Donc il y a le harcèlement moral, puis la réaction au harcèlement moral. Et je crois que le Seigneur a dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. » Et il nous a demandé aussi de ne pas nous venger nous-mêmes, mais de laisser aller la justice. Et donc, d'aimer nos ennemis. Donc voilà, j'ai parlé du harcèlement comme une réalité du travail pour ceux qui le subissent, mais aussi pour ceux qui le donnent. On peut être en situation, notamment quand on est en situation d'autorité, de hiérarchie sur des personnes, on peut très facilement tomber dans nous-mêmes dans le harcèlement moral, parce que c'est dans notre chair, en fait, de dominer avec dureté, hein. Donc, et je pense que voilà la réaction, si on est soumis, on l'est tous à un moment ou un autre dans notre vie, d'une façon plus ou moins forte au harcèlement moral, la réaction c'est de tendre la joue gauche, c'est d'aimer nos ennemis, c'est de prier pour ceux qui nous persécutent, de bénir ceux qui nous maudissent, de laisser à Dieu la justice. Et tout ça c'est difficile, bien évidemment, je peux en témoigner personnellement, et beaucoup d'entre vous aussi, mais voilà, c'est ça le... Voilà, donc je vais juste faire un petit rappel de ce qu'on a vu, puis pour ceux qui sont arrivés un tout petit peu en retard. Donc dans ce premier message, j'avais partagé mes réflexions en fait que j'avais donc quand je suis devenu chrétien, et le fait que mon activité rémunérée était une sorte de zone grise sur le plan chrétien et probablement plutôt mauvaise, et que j'avais l'impression de mener un peu une double vie, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, avec quelqu'un de spirituel quand j'étais dans mon temps libre et quelqu'un de non spirituel ou charnel quand j'étais au travail, parce que le travail paraissait quelque chose qui n'était pas bien en soi. Ça venait peut-être de l'image négative, donc du travail séculier profane, la répartition entre le séculier et le profane qui vient de la vision du travail peut-être au Moyen-Âge. Il y avait aussi dans ce travail, je le comprenais bien, donc c'est ce qu'on a vu, une réflexion sur la futilité du travail, le sens, quel est le sens de mon travail, à quoi ça sert? Est-ce que ça sert qu'à accumuler des richesses? Est-ce que finalement, si j'ai juste ce dont j'ai besoin, est-ce que la bonne idée, ce ne serait pas de travailler juste pour subvenir à mes besoins? On a vu aussi, donc ça c'est un petit peu la réflexion sur le fait qu'il y a une malédiction du travail et qu'elle se traduit par la futilité du travail, par l'absence de sens. On a aussi une malédiction du travail qui se manifeste par la pénibilité sur le plan physique. Travail, c'est dur, surtout les travaux manuels. La pénibilité en termes de faiblesse des rendements, faiblesse des résultats, et puis les choses qui vont pas bien, le travail qui réussit pas, qui marche pas comme on voudrait. Et puis aussi, donc, on vient d'en parler, le phénomène de l'oppression dans le travail qui est partout et j'avais pris pour cela l'image des Égyptiens. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en soi, le travail est maudit? Est-ce que le travail en soi, en tant que le travail, est un châtiment de Dieu sur les hommes? Donc j'ai effleuré cette question tout à l'heure, et je réponds à nouveau, non, le travail n'est pas en soi une malédiction. Il y a une bonne et simple raison, c'est que notre Dieu lui-même est un travailleur. Notre Dieu lui-même est un travailleur, et ça on va le voir dans ce message, le fait que Dieu est un travailleur et qu'il nous invite à travailler comme lui et avec lui. Et donc le titre de ce deuxième message, c'est « Au travail avec Dieu, la rédemption du travail ». Et donc on va essayer de comprendre la vision divine, une vision divine du travail. Donc, un Dieu, on va d'abord réfléchir au fait que Dieu est un Dieu travailleur. Donc, les dieux des Grecs et des Romains, on a parlé tout à l'heure d'Aristote, les dieux, avec un petit dé, des Grecs et des Romains, c'était pas des travailleurs. Et je vais lire un passage du poète Hésiode, qui a écrit, donc un Grec qui a écrit, qui a décrit l'âge d'or, donc c'était en fait dans la mythologie grecque, l'équivalent en fait un petit peu du jardin d'Éden. Et il le décrit de la façon suivante, il dit « Au commencement, les générations des hommes vivaient sur la terre, préservées de la peine d'un labeur difficile. Les hommes de l'âge d'or vivaient comme des dieux. libre de tout souci, de tout travail et de toute souffrance. Donc les dieux grecs étaient pas des travailleurs. La vision, puisqu'ils n'existent pas, ces dieux grecs, mais la vision que les Grecs avaient des dieux, c'est qu'ils ne devaient pas être des travailleurs. Mais notre Dieu à nous, avec un grand D, il travaille. Et dès la Genèse, il travaille. Donc nous lisons en Genèse 2:2, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc le mot œuvre est un autre mot pour travail. On le retrouve en français dans ouvrage, ouvrier. Donc Dieu se repose au septième jour de son travail, mais le travail ne s'arrête pas à la création. Dieu continue à travailler en permanence. Et il y en a un beau passage, si vous voulez ouvrir vos Bibles dans le psaume 121. Pardon, le psaume 104. Psaume 104. Psaume 121, je vais juste lire ce verset, mais on aura plus de choses à dire dans le psaume 104. Voici, il ne sommeille ni ne dort, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 21, verset 4. Dans le psaume 104, on voit que Dieu qui prend soin de la nature, un peu comme un agriculteur. Il est un peu comme un agriculteur qui prend soin de la nature. Il conduit les sources d'eau dans les torrents pour abreuver les animaux des champs. Donc c'est les versets 10 et 11. Hein. Versets 10 et 11 dans le psaume 104. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étangent leur soif. Il arrose les montagnes, donc de sa haute demeure, il arrose les montagnes, la terre est rassasiée du fruit de ses œuvres. Il fait germer le blé, il fait germer l'herbe, pardon, pour le bétail, verset 14. Et les plantes pour les besoins des hommes, afin que la terre produise de la nourriture. Il donne la nourriture aux animaux, verset 27. Et au verset 24, le psalmiste s'exclame « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel !» Ensuite, Dieu est comparé à, donc il est comparé à un agriculteur, il est très souvent comparé à un artisan, en particulier à un potier. Donc en Romains 9, verset 20, « Le vase d'argile, dira-t-il, à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» En Genèse 2, 7, il est dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc c'est encore l'idée, toujours cette idée du potier. Et combien de fois dans la Bible nous trouvons cette expression pour parler des hommes, l'ouvrage de tes mains. C'est comme ça qu'il nous appelle, on est l'ouvrage de ses mains. C'est une façon de désigner l'homme quand le psalmiste ou un prophète s'adresse à Dieu. Et on trouve une très belle exhortation dans Ésaïe 64, verset 7, Donc le prophète demande à Dieu de ne pas s'irriter à l'extrême contre son peuple, et il s'adresse à lui en disant « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, nous sommes l'ouvrage de tes mains. » Donc Dieu est comparé à un artisan, et ensuite on voit que Jésus lui-même est un travailleur. Il est d'abord un travailleur manuel, comme l'a fait remarquer très justement le frère tout à l'heure. C'est d'abord un travailleur manuel. Il a passé la plus grande partie de sa vie à exercer le métier de son père adoptif, qui était donc charpentier, ou travail du bois. Et ensuite, on voit qu'il partage le métier de son père céleste. En Jean 5, 17, il dit « Mon père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. » Donc la version française utilise le mot « agir », les versions anglaises utilisent le mot « travailler », et donc en fait, il dit « mon père travaille » et « moi aussi, je travaille ». La version Darby en français utilise aussi le mot « travailler ». En Hébreux 1, on voit que, en parlant de Jésus, il est dit qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Jésus soutient toute chose par sa parole puissante. Donc non seulement Dieu crée le monde, mais il le maintient en fonctionnement, à chaque instant. C'est extraordinaire. Et en fait, les déistes, il y avait donc des gens du 8e siècle qui étaient ce qu'on appelait les déistes, des gens qui croyaient qu'il existait un Dieu, mais qui n'étaient certainement pas des chrétiens. Il y en a encore beaucoup comme ça aujourd'hui. Il ne faut pas les prendre pour des chrétiens, parce que c'est une grosse confusion. Donc les déistes au XVIIIe siècle, ils disaient oui, effectivement, il y avait un concept de ce qu'ils appelaient le Dieu horloger. Donc c'était comme, vous voyez l'univers, parce qu'ils remarquaient que l'univers était avec des lois très mécanique, que tout ça tournait parfaitement bien, les planètes et tout, le cycle des planètes. Et donc, ils avaient dit, bah oui, effectivement, faites Dieu comme un horloger. Il a créé le monde comme une immense horloge, et puis il a remonté l'horloge, et puis ensuite, il a laissé l'horloge partir, et les planètes se mettent à tourner, etc. Et puis lui, il est parti, il s'en occupe plus. L'horloge marche toute seule, elle n'a plus besoin de lui. Ça, c'était leur vision. Mais c'est entièrement faux, parce que la parole nous dit qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Il soutient tout. À chaque instant, tous les atomes, c'est lui qui les soutient. Jusqu'au jour, il les soutiendra plus. Donc il travaille. Il travaille en permanence. Il ne sommeille ni ne dort. Nous, on a le droit de sommeiller, mais pas lui. Il ne sommeille ni ne dort. Enfin, le travail de notre Dieu, ce n'est pas seulement le travail matériel, mais c'est aussi un travail spirituel. Il y a une très belle phrase dans Ésaïe 53, on va le prendre, Ésaïe 53, verset 11. Très très belle phrase, comme beaucoup de phrases dans Ésaïe 53 d'ailleurs. Ésaïe 53, verset 11, elle est aussi dans les notes. À cause du travail de son âme. À cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Le travail, le mot travail, dans d'autres versions, il est rendu par souffrance. Mais c'est le travail dans le même sens du travail de la femme qui accouche. Il parle bien sûr de l'œuvre de la croix. Et c'est bien une œuvre, un travail qui nous sauve. C'est l'œuvre de la croix, l'ouvrage du travail de la croix qui a été accompli par Christ. Il y a un autre travail que Dieu a fait, c'est le travail de la résurrection. Dieu a travaillé à la résurrection. C'est même un travail immense où Dieu a déployé une énergie incomparablement immense, même par rapport à des centrales nucléaires ou des bombes atomiques, tout ce qu'on peut imaginer. Il y a cette phrase dans Éphésiens 1, verset 19. L'infinie grandeur de sa puissance, donc il parle de la résurrection, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Donc force et puissance, j'étais pas très bon en physique, mais je sais que ce sont des termes qui font référence à la notion de travail en physique. Force, puissance, donc on voit qu'il y a encore une fois une notion de travail dans la résurrection. Et Dieu travaille quand il nous sauve aussi. Il a créé le monde et ensuite il a fait une nouvelle création. Parce que nous sommes une nouvelle création. Donc il y a un travail de Dieu. Et on peut aussi appliquer sur le plan spirituel, c'est des Ésaïe que j'ai cité, qui était sur le plan matériel, qui est aussi vrai sur le plan spirituel, c'est qu'on est des chrétiens, on est l'ouvrage de ses mains. Dieu travaille en nous aussi dans la sanctification. La phrase dit, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et le mot produit, en grec, c'est un mot qui est le mot énergone, et qui a donné en français le mot énergie, et ça veut dire aussi travailler. Donc là, il travaille en nous. Le Seigneur travaille en nous, dans la sanctification. Donc notre Dieu, je pense que on a prouvé le point clairement, il est en permanence au travail dans tous les aspects de sa création. Maintenant, quoi cela nous concerne-t-il? Eh bien, donc, c'est mon deuxième point. Ça nous concerne parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. L'homme est fait à l'image de Dieu. D'ailleurs, c'est la seule créature qui soit faite à l'image de Dieu. Et ceci est affirmé dès la première page de la Bible. On voit ça en Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc cette affirmation n'est pas seulement une observation sur l'origine de l'homme et de sa nature, mais elle a des conséquences pratiques sur le comportement de l'homme, comportement qui est attendu de l'homme. Par exemple, en Éphésiens 5, 1, il est dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés ». Donc la création en image de Dieu a pour conséquence pratique que nous devons l'imiter, nous devons imiter Dieu. Aussi surprenant que cela nous paraisse, je sais que j'ai eu souvent des conversations avec des gens, je leur avais dit qu'on devait imiter Dieu et les gens étaient absolument choqués. Et en fait, c'est ce que dit la parole. Et la parole nous dit qu'on doit imiter Dieu. Et donc cette imitation, il n'y a pas de raison qu'elle ne s'applique pas aussi à notre travail. Et d'ailleurs, clairement, le quatrième commandement le suggère très fortement. Le quatrième commandement, donc vous l'avez dans Exode 20, verset 8. Il était d'ailleurs cité, je pense, sur le prospectus. Hein. Exode 20, verset 8. Donc le quatrième commandement qui nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Il y a donc un parallèle très clair dans ce commandement entre Dieu et les hommes. C'est comme si Dieu disait « J'ai travaillé 6 jours pour créer le monde. Je me suis reposé le 7e. Vous devez faire pareil. Travaillez 6 jours et reposez-vous le 7e. » Donc on voit qu'on est, avec tout ça, on est loin des doutes que j'exprimais tout à l'heure en tant que jeune chrétien sur la validité du travail, me disant que c'était quelque chose de neutre. C'est pas du tout neutre, c'est très positif et c'est travailler et un commandement de Dieu. Travailler un commandement de Dieu. Alors maintenant, troisième point, quel travail? Quel travail Dieu nous demande-t-il de faire? Et on va voir que, première réponse à ça, c'est Dieu nous demande de dominer sur la création. On regarde à nouveau le livre de la Genèse. Et qu'on a déjà vu hier que... C'est mes notes de Bordeaux. On a déjà vu donc tout à l'heure que Dieu avait donné à Adam et Ève la mission de cultiver et de garder le jardin d'Éden, 2:15. Et en Genèse 1:28, donc le verset qui suit celui qu'on a lu sur le fait que Dieu a créé l'homme à son image, il est dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc le travail de l'homme consiste à assujettir la terre, c'est-à-dire, c'est soumettre la terre, et donc dominer sur la création animale. Donc le travail de l'homme, ça consiste à dominer la création. Et en fait, c'est ce qu'on fait, quand on regarde, c'est ce qu'ont fait les hommes de façon incessante. Ils ont maîtrisé les techniques de travail du bois, ils ont appris à extraire les minerais, du sous-sol, ils ont travaillé les métaux, ils ont défriché les forêts, ils ont développé l'agriculture, ils ont domestiqué les animaux, ils ont maîtrisé les techniques de plus en plus complexes, ils ont appris à naviguer sur les mers, à voler dans les airs, à envoyer des satellites dans l'espace, ils ont maîtrisé les énergies fossiles, l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables, et sans arrêt, les hommes ont dominé cette création. Alors évidemment, ils l'ont fait en brandissant le poing à Dieu, comme à la tour de Babel, et en recherchant leur propre gloire et l'accumulation de leurs richesses. Leur gloire et les richesses. Et en mettant toute leur énergie à nier l'existence de Dieu, comme ils le font aujourd'hui, c'en est un point incroyable. Mais, en soi, la domination de la création par l'homme, c'est pas une mauvaise chose. Parce qu'elle répond à un commandement de Dieu. Et ça mérite vraiment d'être rappelé, surtout dans le contexte philosophique dans lequel on se trouve aujourd'hui. Dans cette vision athéiste qui prévaut aujourd'hui, qui est que l'homme est le résultat de l'évolution, il n'a pas plus de valeur qu'un arbre ou un insecte. Dans cette vision du monde, là, qui est très marquée par l'écologie, il faut le dire clairement, par le mouvement écologique, parce que l'écologie en soi, ça n'a rien de mal, c'est que dans cette vision du monde, la nature domine sur l'homme, l'homme n'est qu'un produit de la nature, mais dans la vision biblique, l'homme domine sur la nature et il doit l'assujettir par son travail. C'est la vision inverse. Mais la vision du monde, elle n'est pas étonnante, la nature est devenue un dieu. Comme dit Romains chapitre 1, ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut remettre les choses à leur place. Il est normal que l'homme domine sur la création, la fasse fructifier, parce que c'est le commandement qui lui a été donné. Je ne me rappelle plus, peut-être Timothée pourrait m'aider là-dessus. Il y a un nom là-dessus, ce commandement sur dominer la création, si ça te revient. La mission, ça me reviendra. Mais enfin, il y a une mission que Dieu nous a donnée. Qui est la mission de... Le mandat. Ouais. Le mandat comment ? Mandat dominé. C'est un mandat que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné un mandat, clairement, de dominer sur la création. Il n'y a pas de mal à ça. Même au contraire, c'est central, c'est la mission numéro un confiée par Dieu à l'homme, c'est le mandat de dominer sur la création. Maintenant, quatrième point, on va parler des. On a vu tout à l'heure, on va parler des métiers et du fait que tous les métiers sont nobles. On a vu tout à l'heure que les réformateurs protestants du XVIe siècle et les pasteurs puritains du anglais et américain du XVIIe siècle ont très bien compris que le travail. Donc ils ont compris ce mandat, ils ont compris que le travail avait une dimension, une place considérable dans leur vision de la vie chrétienne. Que le travail, c'est très important. On a vu dans le christianisme médiéval, il y avait une scission entre le travail manuel et le travail spirituel, avec l'un étant plus élevé que l'autre. Mais les réformateurs et les puritains ont rejeté cette vision, et pour eux, tout travail, quel qu'il soit, avait autant de valeur. Et en fait, l'idée, c'est que si Dieu nous appelle à dominer la création, pour cela, il n'y a pas moins besoin de maçons, de charpentiers, d'agriculteurs, ou même de banquiers, ou d'ingénieurs, que de théologiens, ou de pasteurs. Alors peut-être certains d'entre vous se réfléchissent à se destiner au ministère, ou à une activité missionnaire, et gloire à Dieu, évidemment, si c'est le cas, bien évidemment. Mais en revanche, si vous le faites parce que vous pensez que c'est plus spirituel qu'un travail dans le monde, je vous invite à revisiter peut-être votre analyse. Parce que vous pouvez être un maçon à la gloire de Dieu, vous pouvez être un menuisier à la gloire de Dieu, vous pouvez être un banquier à la gloire de Dieu, vous pouvez être aussi une maman qui élève ses enfants à la gloire de, et qui s'occupe de sa maison à la gloire de Dieu. Autant, évidemment, qu'un pasteur à la gloire de Dieu, qu'un théologien à la gloire de Dieu. Et si nous sommes chrétiens, c'est tout ce que nous faisons a un caractère sacré. Paul dit que soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc 1 Corinthiens 10:31. C'est intéressant de voir que la Bible, parlant de métier, la Bible est remplie de personnages qui sont caractérisés par leur métier. À toutes les strates de la société, dans tous les domaines. Avant de devenir roi, David est berger. Abraham était aussi berger, ainsi que ses descendants, Isaac, puis Jacob. Joseph était homme d'État, comme Moïse, comme Daniel. On a le personnage de Betsalel, très intéressant, dans le livre de l'Exode, qui est un artisan très doué. On y reviendra. On a, par exemple, Naaman le Syrien, qui était général, donc il y a plein d'autres personnages. Dans le Nouveau Testament, l'environnement de Jésus et ses paraboles sont remplis de références au travail. Tout un monde de travailleurs, des semeurs, des vignerons, des moissonneurs, des artisans-pêcheurs, des centurions, des soldats, des collecteurs d'impôts. Jésus lui-même était menuisier ou charpentier, et ça transparaît dans ses paraboles quand il parle de la poutre qui est dans ton œil et la paille qui est dans l'œil de ton prochain, et d'autres. Dans les Actes, on a encore des personnes qui sont caractérisées par leur métier. Tabitha, qui fabriquait des habits. L'eunuque éthiopien, qui était ministre. Lydie, qui était une marchande de pourpre. Pourquoi nous dit-on qu'elle est marchande de pourpre? C'est important, parce que c'était son métier. Hein? Luc était médecin. Il y a un geôlier aussi, dont on ne connaît pas le nom, mais enfin, il était geôlier. Eraste, qui est trésorier de la ville, qui est cité en épître aux Romains, qui était probablement un homme avec des très fortes responsabilités. Paul lui-même, évidemment, comme ses amis Prissa et Aquila, c'était fabricant de tentes. Mathieu était, donc lui, il était collecteur d'impôts. Et donc on a l'impression que la Bible ne peut pas parler de quelqu'un sans donner sa qualification professionnelle. Maintenant, on va parler de cinquième point, le thème de la vocation. Le thème de la vocation. Donc on a vu que le travail était donné comme mission, un mandat qui était donné à l'homme pour dominer la création. Mais il y a un concept, un peu dans le mémoire d'idée, qui était très cher aussi aux réformateurs, c'est le concept de vocation. Donc en général, le mot vocation, en français, donc c'est un mot qui vient du latin, on verra ce qu'il veut dire, mais vocation, ça désigne un engagement professionnel particulièrement adapté ou motivé dans le langage moderne. Si vous dites de quelqu'un, il est médecin, c'est vraiment sa vocation, ça veut dire que, en quelque sorte, il était fait pour ça. Par opposition à quelqu'un qui travaille juste pour gagner sa vie, ce n'est pas une vocation. J'étais élevé dans le catholicisme, on parlait des vocations, c'était les jeunes gens qui étaient appelés à devenir prêtres. Des vocations. Et en fait, le mot vocation, ça vient du latin, ça veut dire appel, appeler. Il est très fréquent dans la Bible, donc ce mot, le mot appel surtout pour parler de l'appel du Seigneur au salut. Par exemple, 1 Timothée 6, 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Ou dans 1 Pierre 2, 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Donc il y a de nombreuses références de l'appel de Dieu pour le salut. Il y a aussi un appel au ministère. Souvent, Dieu appelle clairement les prophètes pour leur mission. Il dit par exemple à Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc Jérémie 1, 5. Le ministère prophétique de Jérémie, qui était un appel de Dieu, une vocation au sens fort du terme. En 1 Corinthiens 1, nous lisons ceci, « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. » Donc il y a donc un appel au salut, il y a un appel au ministère. Les rois aussi dans l'Ancien Testament, ils étaient appelés par Dieu, souvent par l'intermédiaire d'un prophète qui les oignait d'huile, comme ce fut le cas pour Saül, David ou Samuel. Enfin, Samuel n'était pas un prophète, mais c'était Saül et David qui ont été appelés par Samuel. Donc on a vu qu'un artisan même qui était appelé par Dieu, qui était Betsalel. Donc, Exode 31 nous dit ceci, « L'Éternel parle à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Donc Betsalel, même si Betsalel était artisan, c'était quand même, dans cet exemple-là, dans un but religieux. Puisque le but, c'était verset 7 dans ce chapitre 31, Exode 31, « Pour qu'il fasse tout ce que j'ai ordonné, la tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propriétaire qui sera dessus. » Donc, l'appel de Betsalel, qui est un travail manuel, c'était quand même destiné à un ministère religieux, qui était la fabrication de la tente d'assignation. Et donc, c'est pourquoi le ministère religieux, donc le ministère spirituel, est un ministère qui est noble. Je ne voudrais pas que, par cette étude qui se consacre au travail séculier surtout, vous ayez l'impression que le ministère religieux est mis à un niveau en dessous, certainement pas. Mais le but, c'est aussi de montrer comment le ministère non religieux est également noble. Mais évidemment, le ministère religieux est noble, et l'œuvre de pasteur, de missionnaire, de théologien, tout ça, et on vient de le voir dans la parole, correspond même à un appel direct de Dieu pour ce ministère. Donc maintenant, pour se poser la question, est-ce que dans la Bible, il y a des exemples de personnes qui sont appelées à un ministère purement profane? Est-ce que Dieu appelle des boulangers, des maçons, des médecins, des militaires, des comptables, etc.? Donc on n'a pas à proprement parler un tel exemple. Toutefois, il y a un passage dans la Bible où le concept d'appel existe dans un sens général qui dépasse l'appel au salut et l'appel au ministère. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 7, au verset 20. Donc là, si vous voulez bien regarder dans vos Bibles... Donc évidemment, j'ai dû le mettre dans les notes aussi. 1 Corinthiens 7, verset 20. Donc il y a une question de traduction sur ce... La façon dont c'est traduit en Louis II, c'est que chacun demeure dans l'état... Donc 1 Corinthiens 7, verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Mais le mot traduit « état » dans notre version, en darbi, il est traduit « vocation ». Dans la version anglaise, il est traduit « appel ». Et donc, c'est le sens du mot grec original. C'est pas « état », mais c'est « appel ». Et si je prends la version anglaise, elle dit « que chacun demeure dans le même appel dans lequel il a été appelé ». Donc, ça voudrait dire que notre état, donc notre situation, comme on dit en français, la situation dans laquelle nous trouvons, lorsque nous avons été appelés, et bien en fait cet état, c'est un appel de Dieu. C'est lui-même un appel de Dieu. Et donc le texte continue en utilisant le mot appel, en parlant de l'état d'homme libre ou d'esclave. Et même quand on continue la lecture, il semble que ça concerne aussi la situation maritale. Oui. As-tu été appelé étant esclave ? Ne t'en mets point en peine, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est l'affranchi du Seigneur, de même aussi l'homme libre qui a été appelé est l'esclave de Christ. Donc il y a cette notion d'appel. Il y a un autre très beau passage qui vient à l'appui Corinthiens 1, 7, 20, dans l'idée de rester dans la situation dans laquelle nous avons été trouvés par Dieu. C'est Luc 3. Luc 3, verset 12. Je trouve que c'est très frappant, c'est donc le ministère de Jean-Baptiste, Luc 3, verset 12. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dirent : Maître, que devons-nous faire ? Il leur répondit : N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent : Et nous, que devons-nous faire ? Il leur répondit : Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Donc ces personnes sont des personnes qui ont été manifestement appelées sur le plan spirituel, au travers de l'enseignement de Jean, c'est pour ça qu'ils sont allés le voir. Et ce que leur dit Jean, c'est très comparable à ce que dit Paul, il dit « Ne changez pas de situation, restez dans votre vocation, seulement exercez-la sans péché. » C'est d'autant plus intéressant que leur profession était soldat et collecteur d'impôts. Donc a priori, pas des professions très... qui n'avaient pas une très bonne image, surtout si c'était des soldats romains. Je ne sais pas si c'était des soldats romains. Mais donc Jean ne leur dit pas « Quittez votre travail dans le monde et consacrez-vous au ministère spirituel. » Il leur dit, et en fait il laisse entendre que devant Dieu, il y a une place pour des soldats, il y a une place pour des collecteurs d'impôts, mais évidemment, qu'ils soient honnêtes. Donc il semble donc qu'il y a un sens dans lequel notre situation dans la vie, situation au sens de situation professionnelle, correspond à un appel de Dieu. Dieu appelle pas seulement des gens à être prophètes, évangélistes, pasteurs ou rois, mais il les appelle, comme on dit en français, à leur situation, c'est-à-dire leur activité dans la société, et que ce soit une activité professionnelle ou familiale aussi, comme une mère de famille. Ah donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de... On va réfléchir un peu à la vocation dans le cadre de la souveraineté de Dieu. C'est vrai qu'il n'y a pas d'exemple dans la Bible où nous voyons Dieu dire à quelqu'un « Je t'ai appelé à être maçon, je t'ai appelé à être mère de famille. » Toutefois, en dehors des deux passages que j'ai cités, les gens du temps de la Réforme, les réformateurs, ont réfléchi et en fait ils ont déduit logiquement que notre situation est le résultat de l'appel de Dieu parce que Dieu est souverain. Notre situation est le résultat de l'appel de Dieu parce que Dieu est souverain. Et Luther a beaucoup réfléchi sur le sujet. Et je cite un passage du livre donc de Jean Edward Wyss là-dessus, le livre Dieu au travail, et il dit ceci. En fait, il cite Luther. Il cite Martin Luther et il dit « Quand nous prions la prière du Seigneur, remarque Luther, nous demandons à Dieu de nous donner notre pain quotidien. Et il nous donne notre pain quotidien. Il le fait en utilisant l'agriculteur qui a planté et moissonne le grain, le boulanger qui a transformé la farine en pain, la personne qui a préparé notre repas. Si vous réfléchissez, donc ça c'est maintenant moi qui parle, si vous réfléchissez à toutes les vocations nécessaires pour avoir une baguette sur votre table, lorsque vous dînez, il est probable que chacune des vocations des personnes qui sont dans cette salle est impliquée. Parce que outre l'agriculteur et le boulanger, il faut un maçon pour construire les murs de la boulangerie, il faut un chauffeur de camion pour amener le grain aux minoteries, il faut toute une foule d'ingénieurs pour concevoir le camion, son moteur, ses pneus, le four à pain, des banquiers pour financer tout ça. Donc finalement, non mais c'est vrai, finalement, et puis il faut aussi certainement un papa ou une maman, il faut certainement un papa ou une maman ou un enfant pour aller acheter la baguette et la mettre à table. Donc en fait, on se rend compte qu'effectivement, pour pouvoir répondre positivement à cette prière, le Seigneur, il utilise tous nos métiers. Et c'est important, d'ailleurs, j'ai dit un papa, une maman ou un enfant pour aller mettre la baguette sur la table. En fait, on a plusieurs vocations. Parce qu'on peut-être, on est peut-être comptable dans la vie, mais on est aussi un époux, une épouse, un papa, une maman, un fils ou une fille. Et chacune des vocations prend sa place dans la société et contribue à son bon fonctionnement. Et tout cela, c'est ordonné par Dieu, dans la souveraineté de Dieu. Dieu aurait pu décider de répondre à cette prière, comme il l'a fait dans le temps de l'Exode, en envoyant la manne sur le sol. Mais ce matin, j'ai regardé, il n'y avait pas de manne sur le sol, mais il y avait des bons croissants et des pains au chocolat sur la table. Donc Dieu nous nourrit, en fait, il ordonne merveilleusement toutes les vocations, et il peut le faire parce qu'il est entièrement souverain. Et effectivement, on a à manger à notre faim tous les jours. Je disais donc qu'il y avait au Moyen-Âge une dichotomie entre le sacré et le profane, et que donc dans le contexte médiéval, la vocation c'était que pour une activité religieuse, prêtre ou moine ou religieuse, avec le célibat. Mais les réformateurs ont réfléchi sur le concept du sacerdoce des croyants. Ça, on l'a cité tout à l'heure dans 1 Pierre 2:9, où les croyants sont appelés à un sacerdoce royal. Et le mot sacerdoce, c'est un mot qui désigne le fait d'être prêtre. Et je cite à nouveau ce que disait donc cet homme, Jean Edward Vith, dans son livre « Dieu au travail ». « Le sacerdoce de tous les croyants ne transforme pas chaque personne en religieux ou religieuse, mais plutôt il transforme chaque travail en une vocation sacrée. » Donc le sacerdoce de tous les croyants ne transforme pas chaque personne en religieux ou religieuse, mais il transforme chaque travail en une vocation sacrée. On a vu que Dieu est en permanence au travail dans le monde, et Luther considérait en fait que Dieu accomplit son travail dans le monde par l'intermédiaire de nos vocations. Il allait jusqu'à dire que nos vocations sont le masque de Dieu. Nos vocations sont le masque de Dieu. Je cite à nouveau cet auteur, donc Vyss. Ce qui est caractéristique dans l'approche de Luther, c'est que, au lieu de voir la vocation comme une chose que nous devons faire, en tant que travailleur chrétien, citoyen chrétien ou parent chrétien, Luther insiste sur ce que Dieu fait par l'intermédiaire de nos vocations. On ne sait pas ce que nous faisons, mais c'est ce que Dieu fait par notre intermédiaire. Et dans un autre passage, il dit ceci: Dieu a choisi de travailler au travers des êtres humains qui, dans leurs différentes fonctions, selon leurs différents talents, se servent les uns les autres. Dieu a choisi de travailler au travers des êtres humains qui, dans leurs différentes fonctions et selon leurs différents talents, se servent les uns les autres. C'est ça la doctrine de la vocation. Et on voit ici, donc, septième point dans mon message, le concept de service dans la vocation. On voit introduire ici un concept fondamental, c'est le concept de service. Quel est le but de Dieu dans nos vocations? Donc le but de Dieu ne peut être que bon. Et le but de nos vocations, c'est que nous nous servions les uns les autres pour répandre l'amour de Dieu les uns envers les autres. Le but des vocations, c'est le service. Le but de nos vocations, quelle qu'elle soit, c'est d'aimer et de servir mon prochain. Je cite à nouveau cet auteur, c'est le test, le critère et le guide pour vivre les vocations auxquelles chacun d'entre nous est appelé. Comment ma vocation rend-elle service à mon prochain ? Qui est mon prochain dans ma vocation particulière et comment puis-je le servir par ma vocation? C'est important, hein, on va revenir là-dessus, mais le fait de savoir si je sers quelqu'un d'autre, comment je peux le servir plutôt, c'est un test pour savoir si ma vocation est une bonne vocation. C'est le test, le critère et le guide pour vivre les vocations auxquelles chacun d'entre nous est appelé. Comment ma vocation rend-elle service à mon prochain? Qui est mon prochain dans ma vocation particulière et comment puis-je le servir par ma vocation? Si vous êtes boulanger, c'est simple, hein, l'image est simple, mais comment vous servez les personnes pour lesquelles qui vont acheter vos baguettes? Si vous êtes employé dans quelques domaines, si vous êtes maçon, si vous êtes enseignant, comment il dit donc c'est le critère et le guide pour vivre nos vocations, le critère du service, servir les autres. Et Jésus nous a dit qu'il était venu non pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et à ce moment-là, il nous a donné une leçon de service en lavant les pieds de ses disciples et en les enjoignant à en faire autant pour les autres, les uns avec les autres. « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jean 13:15. Et donc notre vocation, c'est le champ idéal pour exercer ce service. Alors on voit bien comment on peut servir dans nos vocations de père, de mère ou d'époux. On voit bien comment on peut exercer l'amour dans ces vocations, même si souvent c'est contraint par le péché. Mais on doit aussi voir notre vocation professionnelle comme un service d'amour pour nos prochains. Et on a aussi une vocation en tant que citoyen dans laquelle on doit se poser la même question. Qui est mon prochain et comment je peux le servir dans ma vocation? Il y a des métiers dans lesquels la notion de service est donc assez évidente. Si on est infirmière ou médecin, on est au service des malades qui les soignent. Un commercial, il est directement au service de ses clients. D'ailleurs, moi, j'ai remarqué dans mes relations de travail que je suis en situation d'être client, que les meilleurs commerciaux, c'est des gens qui aiment leurs clients. On sent qu'ils aiment leurs clients. Il y a sinon, ils ne sont pas des bons commerciaux. On sent qu'il y a, même si ce n'est pas des chrétiens, on sent qu'ils ont en eux ça d'aimer leurs clients. L'agriculteur qui moissonne son champ de blé, il va répandre l'amour de Dieu sur des milliers de gens avec toutes ses baguettes et tous ces pains que sa récolte va permettre de fabriquer. Il a beaucoup, beaucoup de prochains, mais en revanche, lui, c'est plus difficile parce que lui, il ne les voit pas. Là, il est là sur sa moissonneuse-batteuse ou sur son tracteur. Mais ce qu'il fait, en fait, évidemment, ça va servir le monde, ça va servir son prochain, mais il ne les voit pas nécessairement. Et ça, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous parce que le monde du travail est compliqué, le monde du travail est complexe. Dans mon travail, mon prochain, c'est... Bon, personnellement, par exemple, moi, je gère des investissements financiers pour des retraités, en fait, c'est un fonds de pension. Bon, ben, mon service, c'est que ces gens-là ils puissent recevoir leur retraite tous les mois. Puis je suis aussi au service des actionnaires de mon entreprise. Je sers aussi les actionnaires de mon entreprise. Ils comptent sur moi pour gérer au mieux l'argent, ça leur coûte le moins. Et puis mon employeur aussi est mon prochain. J'ai un contrat avec lui, il me paye un salaire, je suis aussi à son service. Donc il faut, dans nos travaux, ce que je veux dire, c'est que des fois c'est très simple. Si vous êtes dans un travail, je prends l'exemple d'une infirmière par exemple qui va aller soigner un malade, elle peut tout de suite lui apporter de l'amour dans son service. C'est plus difficile pour d'autres, mais on doit se poser la question. C'est pas parce qu'on n'a pas de relation directe. On a toujours, en fait, des prochains qu'on sert. Et il y en a plusieurs. Il ne faut pas juste dire c'est le client. Il y a aussi les actionnaires. Il y a aussi l'employeur, parce que ces gens-là, ils sont dans l'organisation. Il peut y avoir aussi l'État. Voilà sur la notion de service dans la vocation. C'est vraiment je pense que c'est important d'insister là-dessus parce que on va se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un, je pense qu'on en parlera plutôt demain, mais, enfin, on va aborder un petit peu maintenant aussi, qu'est-ce que c'est qu'un bon métier? Un bon métier, il faut se poser la question de est-ce que mon métier, il peut servir? Et justement, il y a des métiers qui sont pas des vocations. Même si c'est des métiers légaux, il y a des métiers qui sont pas des vocations. Ça peut pas être des appels de Dieu. Et c'est tout le cas de tous les métiers qui ne permettent pas de servir les autres avec l'amour de Dieu. Si vous êtes gérant de boîte de nuit ou de casino, ou un médecin qui pratique des avortements, ou un producteur de films pornographiques, où il y a plein d'autres métiers qui sont légaux, mais ce ne sont pas des activités par lesquelles on peut répandre l'amour de Dieu sur nos prochains. C'est plutôt des activités par lesquelles on peut être amené à détruire les prochains. Je parle par exemple des casinos. En Angleterre, ils ont un énorme problème avec le jeu. En France, on a de la chance parce que c'est très contrôlé. Mais alors là-bas, c'est... Et c'est les entreprises de jeux, c'est des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent. Et ils ont un énorme problème d'addiction au jeu. Ça fait la une des journaux très souvent. C'est une industrie importante. Bon, il y a des lois qui sont passées par le Parlement pour contrer ça, pour limiter les mises. Mais vous avez des gens qui ont dépensé des centaines et des centaines de milliers de livres. Tout leur argent est passé là-dedans. Et ce sont des activités qu'on pignon sur rue. Donc, moi, je prends ça, mais il y en a d'autres. Alors, la drogue, bon, j'ai pas cité la drogue parce qu'effectivement, elle est pas légale dans notre pays, sauf qu'elle le devient maintenant. Par exemple, au Canada, et moi, je vois dans le domaine des investissements, les valeurs cannabis, c'est des valeurs qui montent. Non, franchement. Donc, le cannabis, il y a une pression énorme pour que ce soit légalisé. Donc, voilà, je pense qu'il y a ces questions à se poser. Mais et là, il y a là un test dans le choix de la vocation. Et au passage, je voudrais juste faire une réflexion, c'est que moi j'ai entendu parler de chrétiens, des gens qui deviennent chrétiens, puis ils vont continuer dans leur métier pour pouvoir témoigner dans leur milieu. Mais c'est un métier discutable. Ils vont continuer pour pouvoir témoigner dans leur métier. Mais le but d'un métier, c'est ça peut être de témoigner, je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est d'être un moyen de répandre l'amour de Dieu par son travail. Et je ne vois pas, par exemple, comment je pourrais répandre l'amour de Dieu en servant des whisky ou des vodka à des jeunes dans une boîte de nuit. En disant, je vais témoigner aux autres barmen, donc je vais continuer mon métier, et puis je vais aller permettre à des jeunes de détruire leur vie. Je pense que c'est vraiment... Mais ça, c'est des questions qu'il faut chacun se pose en soi-même. Alors, je suis toujours dans le thème du péché dans la vocation, donc il peut y avoir des métiers qui ne soient pas des vocations, mais bien évidemment, et là c'est beaucoup plus répandu, il y a des métiers qui sont au service des autres, mais on travaille sans le sens du service. Par ailleurs, par exemple, un travail peut être parfaitement louable sans que la personne l'exerce comme une vocation pour Dieu. C'est la majorité des cas. Un grand chirurgien peut sauver des vies humaines, nombreuses vies humaines, tout en recherchant uniquement sa réputation, ou alors à se glorifier personnellement. Parce qu'il est très fort. Sans le savoir, il a un instrument de Dieu pour guérir les autres. Un chef d'entreprise, par exemple, qui fait dans l'alimentaire, il recherche peut-être le meilleur pour son entreprise, uniquement pour s'enrichir, avoir plus de pouvoir, gagner plus d'argent. Mais Dieu l'utilise pour donner à manger à des centaines, peut-être des milliers de personnes. Ou une jeune fille ou un jeune homme dans un centre d'appel, moi ça m'est arrivé de tomber sur des gens au téléphone, dire mais comment ils peuvent être aussi gentils et patients avec moi ? Mais en fait, c'est sans doute parce qu'il a enregistré. Mais ceci étant dit, le service est là. Donc ce que je veux dire, c'est que Dieu, il est souverain, il réalise ses plans au travers des hommes sans qu'ils s'en rendent compte. L'image la plus frappante de ça, c'est que Dieu a réalisé son plan de livrer son fils pour le salut, pour notre salut, en utilisant Pilate et Hérode, qui étaient des crapules, et dont il est dit, ils se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que sa main et son conseil avaient arrêté d'avance. Donc on voit que Dieu va utiliser ces deux hommes pour faire ce que sa main et son conseil avaient arrêté d'avance. Et donc il va aussi utiliser tout un ensemble de gens qui sont tous très égoïstes pour servir le monde. Bah oui. Ah bah ils servent, c'est sûr qu'ils servent le monde. Alors je pense que là la motivation aussi c'est l'angoisse de la mort. Hein. C'est l'angoisse de la mort. Moi, il y a toute une réflexion à avoir aussi sur parce que les gens on pourrait faire un message là-dessus sur le fait que les gens font beaucoup de bien. Les gens font beaucoup de bien, mais pourquoi ils le font ? Quelles sont leurs motivations ? Ici, ce qu'on voit, c'est que souvent les motivations, la réponse rapide serait, je dirais que pour les non-chrétiens, souvent la motivation de faire le bien, c'est souvent une gloire personnelle ou un intérêt personnel. Mais là, on a ici dans cette notion de vocation, je pense que, enfin pour moi ça a été une découverte en préparant ce message il y a un peu moins de 2 ans, de me rendre compte que le cœur de mon travail, c'est comment je peux servir les autres. Il n'y a pas seulement... Il y a plusieurs autres. Comme j'ai dit, il peut y avoir des clients, il peut y avoir des administrés, il peut y avoir des élèves, des parents d'élèves, des actionnaires, l'État, évidemment des collègues au travail, etc. Et ça nous donne beaucoup d'humilité. Donc en conclusion, je voudrais... puis après, on pourra évidemment prendre des questions, mais... En conclusion, je voudrais donc poser deux questions, qu'on se pose deux questions. J'ai parlé de rédemption du travail, donc en quoi il y a une rédemption du travail ? Puis la deuxième question, c'est, nous-mêmes chrétiens, est-ce qu'on peut dire qu'on exerce notre travail comme une vocation que le Seigneur utilise pour bénir le monde ? Donc avant de répondre à ça, je veux rappeler que, on l'a vu tout à l'heure, si la rédemption est nécessaire, c'est qu'il y a eu malédiction. Donc on a vu tout à l'heure que le travail qui est une bonne chose en toi, en soi, il a été maudit par la chute. Mais Christ a été fait malédiction pour nous, et il a fait la rédemption par son sang. Donc il nous a rachetés par son sang des conséquences de la chute, et ça couvre aussi notre travail. Christ, il a aussi racheté cette malédiction. Donc en quoi cette rédemption du travail, elle se manifeste? Donc on a vu que la malédiction du travail, on avait vu trois domaines dans lesquels elle se manifestait: pénibilité, oppression et futilité. Donc dans ce message que je viens de faire, j'ai pas beaucoup parlé de la pénibilité et de l'oppression, mais il est certain que Dieu peut nous protéger de ces choses. Dieu, il a par exemple libéré le peuple d'Égypte de l'esclavage. Donc il a vraiment libéré le peuple d'Égypte qui était vraiment esclave. Donc il peut aussi délivrer des personnes d'une oppression professionnelle. C'est quelque chose qu'il a fait. Il l'a fait dans un but bien particulier, mais c'est quelque chose qu'il a fait. Donc il peut tout à fait le faire, pour nous aussi. On peut le prier, je dirais, si on est dans une situation d'être nous-mêmes oppressés. Sachant qu'il peut aussi nous laisser dans cette situation, parce que ça peut contribuer à notre sanctification, ou parce qu'il y a un témoignage à apporter. Mais je pense que la rédemption du peut se manifester par là. On a vu dans Deutéronome 28, on a vu qu'il y avait tout plein de malédictions, mais il y avait aussi des bénédictions. Dieu peut bénir le travail. Il le fait souvent. Il bénit le travail. Il bénit l'œuvre de nos mains. On peut avoir des réussites, on peut avoir des grandes réussites professionnelles. Mais il reste cette question de la futilité du travail. Je pense que c'est vraiment une question poignante, parce que si le travail va bien, tout va bien, on a un bon travail, on est bien payé, mais à quoi ça sert? À quoi bon? À quoi bon? Et là, je pense que c'est ce qu'on a vu dans l'Ecclésiaste, hein. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à exécuter. Voici, tout est vanité et poursuite devant. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Mais justement, on voit que d'un point de vue chrétien, c'est pas le cas. Parce que mon travail n'est pas poursuite devant. Il y a un véritable sens à mon travail. Et mon travail n'est pas une perte de temps pour le Seigneur. Le boulanger chrétien, qui fait du bon pain, il a à cœur, il est heureux d'apporter de la nourriture et de la bonne nourriture à ses clients. J'ai pris le boulanger parce que c'est un exemple qui nous parle et qui est assez simple. Puis parce qu'on a des croissants sur la table. Mais donc, pour moi, je pense que la rédemption de la futilité de mon travail, c'est que je suis utilisé par Dieu pour servir mon prochain dans les différentes vocations. Et tout à coup, mon travail, il prend vraiment un sens. Mon travail prend vraiment un sens. Au-delà simplement d'être une subsistance, ce qui est tout à fait valable. Maintenant, la deuxième question, c'est: est-ce que nous, chrétiens, on peut dire que nous exerçons notre travail comme une vocation que le Seigneur utilise pour bénir le monde? Et on doit méditer sur ces choses et en prendre conscience et aborder notre regard avec un travail différent. Il y a souvent une petite histoire qu'on cite dans des contextes d'ailleurs professionnels, pas chrétiens, mais vous allez voir un petit peu l'idée. Un homme, c'est du temps des cathédrales, et il rencontre des tailleurs de pierre qui taillent des pierres pour la cathédrale. Alors le premier, il lui demande: qu'est-ce que tu fais? Et l'homme dit: je taille une pierre. Et puis le deuxième, il lui dit: et toi, tu fais quoi? Il dit: je suis toujours un tailleur de pierre. Ils font tous les trois la même chose. Et il lui dit: je construis une cathédrale. Et le troisième, il lui dit: toi, tu fais quoi? Il lui dit: je travaille à la gloire de Dieu. Donc vous voyez, votre travail, vous pouvez le prendre sous ces trois aspects. Et je me faisais la réflexion, je pensais à un maçon qui fait une maison. Alors, deux maçons, ils la font exactement pareil, mais il y en a un qui va la faire parce qu'il faut faire son boulot et puis il va être payé à la fin du mois. Puis il y en a un autre qui, en faisant la maison, il va penser aux personnes qui habitent dans la maison. Il va penser à ces personnes, il va dire, ou un maçon ou peut-être quelqu'un dans le domaine du bâtiment en général: ah, souvent on loue un appartement ou on achète un appartement et puis on dit: c'est mal fini, ils ont fait n'importe quoi, c'est vraiment du boulot bâclé. Mais je pense que le chrétien qui va faire, si il aura à cœur que ce soit parfait. Pour servir, parce qu'il va penser à la personne qui va habiter dans, dans, la, dans l'appartement. Je pense que c'est un bel exemple parce que il y a cette idée de dire je vais le faire à. Et ça, je pense qu'on peut l'appliquer dans plein de choses dans notre travail, le faire à la perfection. Et évidemment, tout ça, c'est pas naturel. Pour moi, je vous ai dit, c'était vraiment une découverte. Et je pense qu'on a besoin que l'Esprit du Seigneur, le renouvellement de l'intelligence chaque jour, pour chaque matin prier le Seigneur et se dire, Seigneur, aujourd'hui je vais travailler, donne-moi, Seigneur, de servir mon prochain dans ma vocation, que mon travail ait du sens, au-delà de m'enrichir ou même de gagner à manger, même si ça c'est important. Voilà, j'en ai terminé, je vais prier, puis ensuite on pourra prendre quelques questions. Seigneur Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, déjà Seigneur, nous voulons te remercier pour tous ceux qui dans cette salle ont du travail, à qui tu as donné de travailler. Et Seigneur aussi, te remercier que tu nous as montré ce que tu attends de nous et nous pensons l'avoir quelque peu compris. Et Seigneur, maintenant, puisses-tu agir chaque jour, renouveler notre intelligence afin que nous comprenions quelle est ta volonté, en particulier ta volonté dans notre travail? Comment nous pouvons mieux servir nos prochains? Comment nous pouvons, Seigneur, mieux comprendre qui sont nos prochains? Ne pas en oublier. Et puis ensuite, Seigneur, les servir. Que tu nous mettes dans notre cœur de les servir. De servir le monde. Et que, en fait, ce soit toi, Seigneur, qui bénisse le monde, comme tu le fais depuis l'origine des temps, par notre intermédiaire dans cet exemple. Voilà, Seigneur, je te demande ces choses au très saint nom de ton Fils, Jésus-Christ, mort pour nous. Amen.